Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Alors bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de ce balado sur l'évaluation préopératoire en urgence. Je suis toujours avec mon collègue Dr Daniel Codd de l'hôpital Santa Cabrini. On va poursuivre aujourd'hui pour la deuxième partie. Rebonjour Daniel.
Bonjour Yann.
Ça va bien aujourd'hui?
Oui, très bien.
T'es prêt pour entamer la deuxième partie?
Absolument.
OK, on parle beaucoup de fonction cardiaque depuis tantôt. Les gens qui nous écoutent commencent à savoir que nous, à Santa Cabrini, avec Dr. Ola, on a le CCUS, on est très éco-guidés dans nos approches. Alors justement, quand que tu arrives au chevet, puis là, tu as vu les médicaments, tu as fait ton évaluation, tu as regardé le dossier antérieur du patient, puis tu arrives au chevet avec ton V-scan que tu traînes partout, hein, Daniel?
Oui, oui.
C'est quoi les choses importantes que tu regardes au niveau cardiaque, là, vraiment au niveau cardiaque pulmonaire, on y reviendra plus tard, mais en termes de fonction cardiaque, c'est quoi les choses que tu penses que nos auditeurs auraient besoin de porter une attention particulière?
Donc, moi, j'ai vraiment changé ma perception de l'évaluation médicale par l'examen physique en général, par l'utilisation de l'échographie. L'échographie, maintenant, pour faire une préop d'urgence, est devenue un peu essentielle pour me permettre de me sentir confortable pour justement pouvoir dire ce patient a un cœur qui peut prendre ou un système cardiovasculaire qui peut soutenir, la poutre qui tient le pont est assez forte. Donc, en particulier, ce que je vais faire, c'est je veux bien regarder le ratio VD-VG. Donc, je vais essayer d'avoir une vue subxiphoïde, une fenêtre subxiphoïde dans le meilleur des cas. Des fois, dans les cas, par exemple, pour revenir à l'exemple initial de péritonite, c'est très difficile d'obtenir cette vue-là. Mais c'est important parce que pour moi, après ça, je regarde ma veine cave inférieure. Si j'ai pas vu la présence ou absence d'insuffisance cardiaque droite ou ce ratio-là, ça devient très difficile dans le contexte surtout aigu de dire c'est quoi leur physiologie et d'interpréter ce VCI. Parce que les gens qui sont en situation de, si on regarde tous les gens qui attendent une chirurgie urgente, sont tous malades. Donc, sont soit hypovolémiques ou sont soit hypervolémiques parce qu'ils sont décompensés de leur pathologie cardiaque ou autre. Alors, si t'as pas une bonne idée de c'est quoi la physiologie de la personne, donc présence ou absence de valvulopathie sévère ou insuffisance cardiaque droite, c'est dur d'être ferme et dire cette personne-là peut procéder à une chirurgie puisque leur physiologie cardiaque peut le soutenir. Donc, on essaie de regarder au moins VD-VG ratio pour comprendre s'il y a une faiblesse systolique importante et insuffisance cœur droit. L'autre chose, c'est en termes des valves, c'est sûr, on peut pas faire des échographies, des formelles pour tout voir. C'est une limite de, je pense, que l'IDU, l'écho au chevet peut permettre. Mais par la suite, l'FEVG en court axe, en long axe. Et par la suite, une visualisation des valves. C'est sûr que lorsque quelqu'un a une sténose aortique critique, là, c'est dur à manquer sur une écho. Donc, souvent, je regarde pour des signes de calcium, puis j'essaie de voir les feuillets. Donc, et toujours en concert avec mon examen physique, mon auscultation et aussi un peu le contexte global. Pour moi, l'écho a permis d'envoyer mes patients soit urgents et des fois électifs, parce que j'utilise même l'écho dans ma clinique de pré-op élective. Ça permet de vraiment chiffrer un peu les choses pour les anesthésiologues et l'équipe chirurgicale se sent beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils ont...
Oui. On pense souvent que les patients qui vont se faire opérer d'urgence sont souvent déshydratés, mais souvent sont hypervolémiques justement dans le contexte de dysfonction. Puis on sait que par culture, en anesthésie, en salle d'op, ils reçoivent beaucoup de liquide. Alors, ça ne me surprendrait pas que des fois, on est obligé de l'asphyxier des patients, de donner des diurétiques avant même d'aller au bloc pour au moins redescendre un peu dans la coupe de Starling puis laisser de la place, surtout pour l'induction anesthésique. Hein. Puis surtout l'intubation qui va augmenter l'hypertension pulmonaire. Alors, si vous avez une hypertension pulmonaire de base ajoutée par l'intubation, ça se peut que votre cœur droit défaille ou, en tout cas, montre des signes de souffrance là, à ce moment-là.
Effectivement. Puis en fait, si on se réfère au ligne directive de la Société canadienne de cardiologie cardiovasculaire, Canadian Cardiology Society, CCS, on peut voir qu'ils disent qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas manquer en pré-op. L'hypertension pulmonaire sévère et sténose aortique sévère. Donc, le reste, c'est sûr que c'est important, mais ces deux pathologies-là ne peuvent pas être manquées. Pourquoi? Parce que beaucoup des anesthésies peuvent dépendre d'une bonne précharge. Alors, moi, si je sais que ces deux conditions-là qui sont qui requièrent une bonne précharge et un bon maintien de précharge sont présentes, ben moi, je peux aussi communiquer ça à mes collègues en anesthésiologie, puis on peut se parler pour ajuster notre approche. Donc, des fois, au lieu de faire une rachie, on va faire une épidurale gradée, mitigée. Donc, pour ne pas justement causer comme le choc neurogénique qui survient lors d'une chirurgie neuroaxiale, donc pour pas causer un peu la vasodilatation périphérique. Ou au moins, elle sera causée, mais elle sera pas aussi définitive ou rapide que si on fait juste injecter une aiguille puis donner notre dose de rachie. D'autres options, des fois, c'est de procéder pour une anesthésie générale, même si un patient a une pneumopathie, par exemple, mais l'anesthésie générale peut être plus hémodynamiquement stable si on a une hypertension pulmonaire sévère ou encore une sténose aortique sévère, parce qu'elle est plus facile à calibrer.
J'ajouterais pour terminer au niveau cardiaque, naturellement, dans l'évaluation, vous regardez si vous n'avez pas un épanchement péricardique aussi, là, s'il y a quelque chose qu'on doit aller drainer pour faciliter la fonction myocardique. On reste dans l'échographie. J'aimerais ça maintenant qu'on passe au niveau de l'évaluation pulmonaire. Alors, ça serait quoi tes points importants, tes red flags, tes drapeaux rouges, là, comme on appelle en français, par rapport à l'échographie pulmonaire? Qu'est-ce que tu vas regarder avec ton échographie pulmonaire pour potentialiser ton patient avant la chirurgie en urgence?
Oui, c'est sûr, si on parle dans un contexte traumato ou un contexte pertinent, le lung sliding devrait être évalué. C'est sûr que l'écho, je trouve, c'est une excellente manière aussi de faire une extension de notre compréhension de la volémie du patient, parce qu'on peut aussi regarder l'espace pleural. Donc, si on voit qu'il y a des épanchements pleurales chez un patient qui est déjà connu cardiaque, ben ça nous donne encore plus de confiance pour dire peut-être à nos collègues en anesthésie, OK, donnez pas trop de volume intrape, on va déjà aller vers une orientation sec et non volémique. Et non à part volémique. Donc, comme tu disais, Yann, souvent les patients sortent, ils sont déjà 5 litres positifs de leur bloc opératoire, et là, ça prend 5 jours pour chaque litre de positivité pour leur remettre dans leur état volémique. C'est des situations qu'on veut essayer d'éviter. L'autre chose au niveau pulmonaire, peut-être pas par l'écho. Donc, je peux parler aussi dans mon approche. C'est comme avec le concept initial que je disais, il faut vraiment comprendre tout le contexte du patient. Donc, il faut vraiment comprendre s'il y a un historique présent ou ancien de tabagisme, la présence ou ancienne maladie asthmatique, donc même juvénile, c'est important à savoir. Clairement, la radiographie pulmonaire en urgence, elle est essentielle. Donc, tout le monde devrait avoir une radio pulmonaire pour justement évaluer le parenchyme, voir s'il n'y a pas une maladie interstitielle. Parce qu'on oublie souvent que les patients qui ont des maladies obstructives ont souvent un tableau mixte et peuvent développer aussi une maladie interstitielle. Et c'est ça aussi qui peut contribuer, là, surtout les plus emphysémateux, là, avec le temps, ça peut mener à des hypoxémies assez importantes en post-op. Donc, c'est pas juste quelque chose qui se traite par bronchodilateur ou par cortisone, il y a aussi un élément intrinsèque qui affecte et permanent qui affectera ce patient. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien regarder la radio pour comprendre aussi le contexte du patient.
Oui, l'extubation va être liée souvent à ça, la difficulté d'extuber le patient. Puis, j'aimerais revenir sur, quand on parlait de l'échographie au niveau, tu parlais de l'échographie pleurale. ça m'est arrivé souvent, puis probablement ça t'est arrivé aussi, lorsqu'un des patients arrive, puis sont déjà, ils ont une mauvaise fonction cardiaque, arrive des épanchements pleuraux, c'est pas mal de les drainer avec des pictels rapidement, parce qu'il faut comprendre que quand on va les intuber, ça va faciliter le travail de l'anesthésiste. Puis pour le post-op, après, si tes drains sont déjà en place, justement, tu parlais d'un 5 litres en 5 jours, on n'est plus à l'époque où est-ce qu'on pensait que trop de liquide, c'était pas grave. On sait maintenant les dangers de l'hypervolémie. Alors, de potentialiser ton patient pour bien tolérer l'extubation, bien tolérer l'intubation, la ventilation, de mettre des drains. Je me souviens d'un patient, c'était pas une chirurgie, mais c'était un patient que j'ai envoyé en coro. Il était incapable de se mettre en décubitus dorsal. Il a fallu le drainer, là, il y avait 2 litres de chaque côté. Bon, c'est un peu la même chose en chirurgie, si on veut, même ne serait-ce que d'améliorer le retour veineux si on diminue la pression thoracique, là.
Puis, l'exemple que tu donnes pour la coro, on peut dire que c'est pas une chirurgie, mais c'est très semblable. Le concept, c'est semblable. On envoie quelqu'un pour une procédure. Et justement, la même chose arrive au bloc, là. Vous savez, ils mettent un patient à plat. Et même si c'est une chirurgie de cheville, des fois, s'ils sont mis à plat, puis ils se mettent à désaturer parce qu'ils avaient ces 2 litres bilatérales d'épanchement pleural qui n'ont pas été drainés, ben, ça peut mener à une intubation pour une chirurgie qui nécessitait aucune intubation. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un autre exemple aussi de ce qu'on peut dire lors du pré-op, c'est de reconnaître le risque et de gérer le risque.
Ouais.
Donc, plus tu reconnais ton risque en pré-op, plus tu es capable de savoir, OK, ça, c'est une faiblesse, ça, c'est une faiblesse, ça, c'est une faiblesse, plus tu es capable de... Des fois, on peut pas tout enlever, on peut pas tout guérir en 2 heures et même en 2 mois, si on a 2 mois d'attente pour notre chirurgie, mais on peut au moins modifier notre approche.
Excellent. Fait que globalement, au fond, notre approche échographique, c'est toujours la même affaire. C'est une manière de potentialiser notre volémie, s'assurer que le patient est plus optimal. Question de volémie, pour terminer, notre dernier point que j'aimerais parler avec toi, c'est l'hémoglobine. Donc, les culots, la valeur d'hémoglobine, on le sait qu'au fil des années, on est devenu de plus en plus conservateur dans l'approche de transfusion de patients. Bon, c'est sûr qu'on va avoir des chirurgies de traumato qu'il faut garder un volume circulant de bonne qualité en termes de sang, mais pour la plupart des autres patients, les patients qui ont connu avec l'anémie ou qui ont un peu de saignement, par exemple, je ne sais pas si c'est un cancer du côlon, une perforation, c'est quoi ton approche par rapport à l'hémoglobine, aux transfusions, puis parce qu'on est toujours dans un contexte de pré-op, donc qu'est-ce que tu fais avec une hémoglobine basse? C'est quoi ton approche? Puis est-ce que tu as des valeurs que tu te donnes ou tu y vas vraiment en fonction du patient?
Donc, là encore, on avait le fameux trick trial où ce qu'on disait, c'était 70 pour tous les gens, peu importe leur comorbidité, 90 pour les gens qui avaient des comorbidités cardiovasculaires connues. Le trick trial c'était un contexte de soins aigus, pas un contexte de nécessairement de chirurgie en tant que telle, puis c'était des personnes un peu plus jeune, on peut dire, s'il y avait un certain contexte, les gens disaient, on remet en question la validité de cette étude-là pour plusieurs raisons. Mais ces chiffres-là sont toujours ancrés un peu dans, on peut dire, dans la communauté médicale. Tout le monde, lorsqu'il voit un hémoglobine en bas de 90, chez un patient qui est connu MCIS, qui s'en va pour une chirurgie, on a tendance à vouloir transfuser. OK? Mais la question à savoir, c'est est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Et là, il y a des études par la suite qui sont sorties, notamment la fameuse étude de Barcelone où ce qu'on regardait les segments gastro-intestinales. Mm-hmm. Et on a vu qu'une approche restrictive envers la transfusion menait à des mortalités diminuées. Donc, c'est des affaires qui nous font maintenant réfléchir sur le danger du sang. Est-ce qu'il y a un effet, un impact immunologique en donnant du sang qui affecte, qui cause une baisse de l'activité du système immunitaire ou qui de la manière que les cytokines peuvent fonctionner, le recrutement, la chémotaxie des neutrophiles. Donc, il y a toutes sortes de concepts un peu reliés à ça. Ceci étant dit, on a aussi des collègues en anesthésie et des chirurgiens qui seront pas à l'aise de procéder à l'opération si on transfuse pas. Mm-hmm. Donc c'est un peu comme prendre l'autoroute pour traverser le parc de la véranderie. On est mieux d'avoir la tank à gaz pleine. C'est un peu le concept de base que les gens ont. Donc, pour répondre à la question, c'est pas clair. Je ne pense pas qu'il y a de chiffres magiques où ce qu'il faut transfuser ou ne pas transfuser. Moi, personnellement, si j'anticipe que la chirurgie sera plus longue, si c'est, par exemple, dans le contexte orthopédique, une endoprothèse versus une prothèse moins invasive comme un clou gamma, ça va affecter ma décision de transfuser ou non, la présence ou non d'anticoagulants, d'antiplaquettables, ce qui peut aussi affecter le risque de saignement. Et évidemment, les facteurs intrinsèques du patient au niveau cardiovasculaire. Donc, est-ce qu'ils ont eu 5 stents dans la dernière année? Est-ce qu'ils ont une maladie tronc commun connue? C'est sûr que ces gens-là, je vais peut-être un peu plus libéral dans mon approche transfusion que quelqu'un de 50 ans sans antécédent.
Mmh. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense, au niveau d'hémoglobine. Hein? Les études sont dures à faire dans ces circonstances-là parce qu'il n'y a pas deux patients pareils qui vont se faire opérer. Tu as tout à fait raison, je pense, de mettre en évidence l'anticoagulation, le type de chirurgie, le risque de saignement opératoire, la friabilité des tissus, hein, l'âge de la patiente ou du patient. Toutes ces choses-là viennent faire de ce que la médecine est. Hein. Des fois, c'est de l'art, c'est pas juste de la technicalité avec des protocoles qu'il faut toujours mettre en place. Des fois, il faut réfléchir. Écoute, Daniel, c'était extrêmement intéressant. J'ai appris plein de choses à ton contact, comme d'habitude. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce balado-là. Si vous avez aimé le balado, n'hésitez pas à le partager à tous vos collègues qui aiment les soins critiques, urgentologues, médecins de soins intensifs, infirmières, inhalo. Tout le monde, ça peut toujours servir. Vos collègues anesthésistes et chirurgiens aussi, hein. C'est pas une mauvaise idée de voir l'opinion des autres penchants de la médecine lorsqu'on opère un patient. Alors, je voudrais te remercier, Daniel. C'est très, très, très agréable de t'avoir reçu aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup. Ça a été mon plaisir.
Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à venir sur le site du Francophone ou sur Facebook, voir nos balados sur les chaînes habituelles YouTube, Spotify, iTunes. À la prochaine. Merci.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.